Allez, ils sont arrivés, tout frais, tout dispo. Diego Rabal, Philippe Noni, ils sont là chaque semaine. Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour Philippe. Philippe. Bonjour, Diego. Philippe. Je vous emmène pour écouter un auteur de polar que nous recevons dans notre émission. Et,
Ah, il y a quand même du polar, Diego.
Ah, oui,
ah,
là,
vous
rassurez.
Parce que là, on était inquiets. Là.
Ah, ouais, non, non,
je lisais l'inquiétude dans les yeux de Philippe Subercase.
Nous allons recevoir notre ami Patrick Amand. Pour les Lampourdes de Magellan. Bonjour Patrick.
Bonjour à vous.
Voilà. Bonjour Patrick.
Alors donc bonjour. Effectivement, nous n'allons pas parler cinéma. Ça peut arriver. Peut-être qu'à un autre moment, nous parlerons cinéma et pas forcément cinéma noir. Là, je vous reçois pour les Lampourdes de Magellan, paru aux éditions du Caïman. Comme d'habitude, enfin, je pense que je vous ai déjà reçu sur cette antenne pour parler d'un autre de vos romans il y a au moins deux ans.
Il y a deux ans, c'est ça.
Aujourd'hui, nous allons parler des Lampourdes de Magellan. Et comme d'habitude, je vais vous
la chronique
lire
de Diego Rabal.
Voilà, faire ma chronique. Et à partir de là, vous pourrez taper, si vous le voulez, sur le lecteur.
Alors, taper 1, ça sera oui, je suis d'accord. Taper 2, c'est non, je ne suis pas d'accord.
Taper 3, c'est faites exploser.
Faites exploser. Voilà, vous avez bien noté.
Voilà. Alors, Les Lampourdes de Magellan de Patrick Amand aux éditions du Caïman. Lorsque son employeur envoie Jessica de Floirac rencontrer un nouvel auteur de polar à Cherbourg, c'est tout naturellement qu'elle s'invite chez sa cousine Florie à Saint-Vaast, à quelques dizaines de kilomètres de là. À son arrivée, le petit port bruisse de rumeurs sur la mort étrange de Germaine Pansard. La disparition en mer de son fils, Philippe, 15 ans plus tôt, et les activités suspectes du beau-père, Marcel Pansard, pendant la Seconde Guerre mondiale, alimentent l'usine à fantasmes sur l'existence d'un trésor maudit. Rapidement, un petit groupe d'enquêteurs sauvages voit le jour autour de Jessica et Florie. Marianne, historienne des camps de concentration nazis sur les îles anglo-normandes, Marc, chroniqueur pour le journal local, et aussi un marginal, ami d'enfance de Philippe Pansard, Jean-Pierre Mongin, dit Mangemain, à la suite d'un accident de jeu dans son enfance. Dans ce roman, Patrick Amand propose au lecteur une suite d'allers-retours temporels ou géographiques. L'auteur nous plonge dans l'ambiance nauséeuse de l'occupation nazie des îles anglo-normandes et des trafics abjects de petits entrepreneurs locaux, mais il nous amène aussi dans un voyage autour du monde qui passe par l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Progressivement, Patrick Amand découvre ses cartes tout en conservant le mystère jusqu'à l'acmé final qui réserve une belle surprise. Patrick Amand nous a concocté un superbe roman qui dévoile un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale. À lire sans tarder, Les Lampourdes de Magellan, Patrick Amand. Voilà Patrick, j'espère que je ne vous ai pas trop fâché.
Il a tapé 1, 2, 3, là, donc vous rappelez.
Il a tapé les 3.
Philippe Subercase.
Non, Diego.
Diego, donc je disais à Philippe Subercase, vous rappelez pour savoir s'il est bien retenu.
D'accord, oui, il a retenu. Alors, Patrick.
Eh bien, c'est une manière fort élégante de parler de mon livre. Merci beaucoup, Diego.
Ah ben de rien, je me suis régalé.
Je serais tenté de dire comme d'habitude, mais bon. Merci beaucoup. Oui, je suis content que ça plaise. C'est vraiment l'état d'esprit que je voulais mettre dans ce livre, des allers-retours historiques, faire voyager, pas pour dépayser, mais sur le côté historique, c'est un peu ma marque de fabrique sur cette partie. Juste une petite précision, Diego, on ne dit pas Saint-Vaast, mais Saint-Va. Saint-Va-la-Longue,
ah, d'accord. Normandie. Ah, voilà. C'est à cause du double A que j'ai pensé que c'était vaste.
Mais bon, on évite, quand on dit ça là-bas, à Saint-Va, quand on dit Saint-Vaast, on est vite repris, on ne fait plus l'erreur.
D'accord, oui, mais je n'y ai pas mis les pieds malheureusement.
Et oui, c'est parce que c'est la différence entre le nord et le sud, c'est que dans le sud on prononce toutes les lettres, et alors c'est la différence, vous savez, quand les gens viennent dans le sud, quand ils disent, par exemple dans les Landes, je me rappelle un jour, oui je cherche la commune de Tarta, je ne connais pas, vous connaissez, vous êtes d'ici, oui, je suis du coin, ma mère est du coin, je ne connais pas, comment ça s'écrit, T-A-R-T-A-S, ah je dis là oui, on dit Tartas quoi, Tartas, si vous dites Tarta, nous on ne connaît pas, je vois que c'est valable dans un sens et dans l'autre.
Ah ouais, c'est valable dans les deux sens. Voilà, alors... Donc cette petite commune, elle a une histoire particulière aussi, non ? Parce que vous vous appuyez quand même sur l'histoire locale. Vous êtes un auteur qui s'appuie souvent sur la petite histoire, enfin du moins sur des histoires personnelles pour raconter la grande histoire. Alors allez-y, on vous écoute par rapport à Saint-Va.
Alors Saint-Va, donc c'est une commune. Bon, j'adore ce coin, la Manche. C'est vraiment une très belle région, très beau département. Donc j'ai séjourné pas mal de fois en vacances là-bas. Et effectivement, il y a cette petite chapelle désacralisée qui est juste avant la jetée, là, qui donne sur une île, sur l'île Tatiou. Et dans cette petite chapelle, il y a des ex-voto pour les marins disparus en mer. Donc partout où je vais en vacances, j'ai mon petit carnet. Puis claque, il y a quelque chose qui apparaît. J'avais le démarrage de l'histoire qui partait de cette petite chapelle. Et ensuite, en cherchant un peu, parce que je voulais lier ça à la Seconde Guerre mondiale, et je faisais des recherches sur les camps de prisonniers qu'il y avait en Normandie, et j'ai découvert qu'effectivement, sur une des îles anglo-normandes, l'île d'Origny, il y avait un camp de concentration nazi, donc le seul sur le territoire anglais, du coup, et qui était vraiment très, très dur, hein, je ne sais pas si c'est le terme, mais où on ne connaît pas trop le nombre de morts qu'il y a eu, parce que tous les cadavres étaient jetés à la mer. Et donc, je suis parti de cette histoire, et également sur la partie dont vous avez évoqué, la partie l'ésotérisme nazi, puisque il y avait beaucoup de... entre Hitler et Himmler étaient passionnés par toute cette partie, et notamment un objet dont je parle dans le livre, la lance de Longinus, qui est la lance qui aurait percé les flancs du Christ sur la croix par le légionnaire Longin, pour voir s'il était encore vivant. Et donc cette lance... cette lance, on sait que c'est pas exactement la lance, mais est dans un musée en Autriche, au musée de la Hofburg. Et Hitler était passionné aussi par cet objet qu'il avait découvert quand il était étudiant en Autriche. Et la première chose qu'il fait quand il rentre en Autriche au moment de l'Anschluss, c'est d'aller dans le musée et de mettre la main sur cet objet avec les reliques du Saint-Empire germanique et les rapatrier en Allemagne à Nuremberg. Voilà le gros de l'intrigue.
Voilà, ça c'est le gros de l'intrigue. Ouais. Donc vous tricotez cette intrigue donc entre cette dimension ésotérique et donc cette quête de la part de Hitler et de Himmler sur la lance, mais aussi sur, je dirais, une quête beaucoup plus récente qui est aussi le fait de rechercher l'original de cette lance, puisque dans votre roman, il y aurait eu substitution.
Oui, alors bon, ça c'est la... C'est la peur
fictionnelle.
Entre la réalité et la fiction, la lance de Longinus, l'histoire existe, hein, elle est connue en recherchant bien. L'admiration par Himmler, même si c'est vrai que c'est pas le sujet qu'on évoque tout de suite lorsqu'on va parler d'Himmler.
Pas tout à fait, non.
Voilà, et en grattant un peu, et ensuite en grattant vraiment, on s'aperçoit que... Patton aussi était passionné par cette lance, et c'est un peu grâce à Patton qu'elle est retrouvée à la fin de la guerre. Donc ça, c'est intéressant. Effectivement, j'imagine que cette lance a voyagé, puisque je fais un espèce de mix avec la fuite des nazis en Argentine. Ça devait être un peu la trame de mon polar au départ, qui est un peu déviée, mais il y a quand même cette part de la fuite des nazis en Argentine. Des événements où on aurait aperçu quelques sous-marins qui apparaissent début 45 en Argentine. Bon, on sait bien qu'il y a une fuite. La réalité, c'est un bâtiment qui a été retrouvé dans la jungle en Argentine où il y aurait eu le passage d'Allemands, puisque quelques fouilles ont révélé des objets montrant cette présence. Donc tous ces événements, tous ces petits événements que je collecte au quotidien, hop, je vois un événement, je vois quelque chose dans l'info, que là, je le mets dans un petit dossier, je dis ça me servira un jour. Et ensuite, il y a la part de la fiction qui arrive. Alors effectivement, moi, pour moi, il n'y a pas une lance, peut-être d'autres cachés qui voyagent ou pas. Mais tout en
gardant... Ça, c'est la liberté de l'auteur, hein, tout d'un coup, où il se dit, je mets ça en avant, et puis hop, au travail.
Exactement, tout en gardant la rigueur historique, parce que, il ne faut pas raconter n'importe quoi. En règle générale, je pense particulièrement quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et qu'on s'attaque, entre guillemets, aux nazis et aux camps des nazis, aux camps de concentration. Et le hasard fait qu'effectivement, en travaillant sur ce polar dans la commune de Saint-Va, donc il y a quelques scènes qui se passent dans l'église, hein, et j'y étais allé, il y a eu des travaux, les vitraux étaient en restauration, et
J'ai vu passer sur les réseaux sociaux quelques photos que vous aviez faites à l'époque.
Voilà, ouais, voilà, et en regardant bien, je trouve, alors le hasard, il n'y a pas de hasard, une des phrases que j'aime bien, c'est une phrase de Jacques Prévert, le hasard ne frappe jamais au hasard. Et
Non.
au hasard, je trouve dans cette église la scène de Longinus qui perce le flanc du Christ juste à l'endroit où je voulais faire une scène de bouquin. Je dis là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Alors, moi, ce que j'ai appris, parce que je veux dire, j'avais pas du tout percuté cela, c'est le statut qu'ont eu les îles anglo-normandes durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est vrai que, je veux dire, on se pose pas la question des îles anglo-normandes. Il y a la France qui est envahie, la zone nord qui est envahie, et puis il y a la zone sud, et puis il y a l'Angleterre qui résiste. Mais entre les deux, il y a les îles anglo-normandes, et c'est vrai qu'on se pose rarement la question de leur
Qui
statut.
sont, on parle bien de Jersey, de Guernesey dans les îles anglo-normandes, ou c'est que,
Et
est-ce que
moi, oui,
oui,
moi c'est Origny, enfin voilà. En
Origny,
fait, il
voilà,
y en a
donc
quatre, mais c'est
c'est un
Jersey, Guernesey,
ensemble, voilà.
Origny.
Oui. Expliquez un peu
Ouais,
d'ailleurs
expliquez un peu, parce que c'est
comment
vrai
ça
qu'on connaît
s'organise.
Jersey et Guernesey, notamment Guernesey parce que Victor Hugo y avait été lorsqu'il y avait eu le coup d'État. Expliquez-nous un peu justement où ça se situe pour les auditeurs et les auditrices.
Quand vous prenez la Manche, hein, c'est sur au large de la Manche. Hein. Alors Origny est plus tout en haut du côté du nez de Jobourg, on l'aperçoit d'ailleurs en Normandie. Et en fait, ils ont été occupés rapidement par Hitler, qui voulait en faire des bases avancées pour l'invasion de l'Angleterre.
D'accord.
Et la plus proche île Origny, d'ailleurs, va prendre le nom et nommée par les Allemands l'île Adolphe. Donc ces îles sont occupées et l'île d'Origny est vidée de ses habitants pour en faire justement ce camp de concentration, rattaché au camp de concentration de Neuengamme, je prononce mal, en Allemagne, où il va donc. Des entrepreneurs français, belges, vont venir pour construire d'abord les baraquements des soldats allemands, des troupes. Ensuite, il va y avoir des prisonniers qui vont arriver. Alors, il va y avoir des républicains espagnols, il va y avoir des juifs, il va y avoir des prisonniers russes, un peu de tout. Ça va être un camp avec des personnages. Tous les personnages, tous les commandants du camp, tous les nazis que je cite dans le livre, hein, il y a eu un turnover, on va dire. Donc, tous étaient plus ignobles les uns que les autres, avec des personnes qui vont être torturées, qui vont être tuées, qui vont être exploitées. Mais donc il n'y aura pas l'invasion de l'Angleterre, et cette île va rester une des îles occupées par les Allemands. Et ensuite, au moment du débarquement, la priorité ne va pas être ces îles, hein, puisque les Anglo-Américains vont débarquer en Normandie, et la libération interviendra qu'à partir du même après le 9 mai, il y aura une reddition, mais il y a un nazi fêlé qui va résister jusqu'à, je ne sais plus, encore une semaine après, 10 jours après
La
la chute de
reddition de l'Allemagne nazie, oui.
l'Allemagne. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est peu connu. Je suis tombé par hasard sur notamment une personne qui a fait une thèse là-dessus et qui a fait un article dans une revue que j'ai trouvé sur Internet. Ensuite, j'ai réussi à me procurer des livres. Alors, c'est une édition, voilà, La vie sur les îles, je crois, c'est une édition anglaise qui a été traduite par un petit éditeur, je ne sais même plus, une association. Donc, il y a un livre très rare, j'ai réussi à dénicher, où il y a la vie sur l'île, que je relate peu finalement, mais là qui mériterait aussi beaucoup plus un autre livre éventuellement. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et peu connu comme histoire. Pas inconnu, mais peu
Oui.
connu. Et donc,
Alors le camp de concentration qui a été mis là, c'était pas pour éloigner les gens, c'était en fait pour avoir de la main-d'œuvre
bah voilà,
pour la ligne de défense des nazis au moment de
oui.
l'invasion, quoi.
Puis après un camp de concentration comme n'importe quelle concentration, je serais tenté de dire. Hein, donc on en envoyait là. Il y a eu des Français aussi hein, qui y sont allés, des résistants. Je crois qu'il y a eu une évasion de ce camp, mais c'était vraiment. En plus, c'était un lieu de débauche. Il y avait un bordel sur l'île. Enfin bon, c'était. Et donc j'invente aussi deux personnages, deux nazis qui débarquent sur cette île. Mais tous les gradés, tous ont vraiment existé. Certains sont évaporés, on ne les a jamais retrouvés. D'autres ont été condamnés, ont été retrouvés en République fédérale d'Allemagne, ont été condamnés, ont été en prison, L'auto a été libéré. Et je crois qu'il y en a un. Il y en a, il n'a pas fait long feu, parce qu'en fait, il a été retrouvé en République démocratique allemande. Et là, ça n'a pas trop
Oui, il
traîné.
n'y a
Il y a un jugement
pas.
express et il a été
Voilà.
décidé.
D'ailleurs, un jugement assez rapide, même.
Oui,
Je
voilà.
pense qu'il a été
Ouais.
fusillé avant d'être jugé. Mais.
Oui. Ouais.
Voilà. Mais vous montrez aussi dans votre roman, donc on se balade un peu. Alors, c'est relativement bien documenté, hein, le fait que des nazis ont trouvé refuge en Amérique latine, notamment en Argentine, mais on oublie
Ouais.
aussi qu'il n'y a pas eu que l'Argentine, il y a eu aussi le Chili. Il y a le fameux camp
Oui.
de
Oui.
la
La colonne.
communauté de
Ouais.
Concepción qui a défrayé la
Ouais.
chronique au moment de notamment. De la dictature de Pinochet, puisqu'elle
Ouais.
a servi de camp de concentration et sur place.
Il y a eu l'université de la torture aussi à Buenos Aires,
Buenos Aires,
ouais.
oui.
Où les,
À
ce
l'école
sont,
de mécanique.
voilà, l'école
Oui,
de mécanique,
oui.
où ce sont des nazis qui ont formé donc les futurs tortionnaires argentins
Ah oui.
pour pouvoir interroger les gens. Donc il y a une université de la torture. Enfin,
Voilà.
on ne
Alors,
penserait pas qu'il y aurait une université. Enfin, université et torture, ça devrait être deux termes qui ne devraient jamais être ensemble. Et ben, en Argentine, ça
Ouais.
existait, quoi.
Oui.
Avec effectivement les nazis, ouais.
Alors, il y avait des nazis, mais il n'y avait pas que
Que.
des nazis. Malheureusement, il y avait aussi des agents de la DST française
Oui.
et des ex qui avaient fui la France après la fin de la guerre
Parce qu'ils avaient
d'Algérie,
quoi
donc
là?
des ex-OAS qui étaient là-bas. Donc je veux dire à la fois des gens encore en service et puis des retraités, entre guillemets. Donc effectivement, non, mais l'Amérique latine
Des
a
retraités reconvertis, ouais.
reconverti. Donc l'Amérique latine et notamment l'Argentine, mais parce que l'Argentine, historiquement, a aussi une
Oui.
émigration
Voilà,
allemande
tout à fait.
depuis
Ouais.
le 19e siècle, hein,
Voilà, c'est ça. Ouais. Les nazis qui ont fui là-bas avaient déjà des points d'appui
Voilà.
et ont pu s'intégrer un peu plus facilement. D'ailleurs, on voit dans les descendants les noms, bon, il y a en pleine actualité quelques joueurs de rugby de l'équipe d'Argentine qui ont des noms à consonance
La consonance allemande, tout à
pas très
fait.
latino.
Voilà, oui. Et en Uruguay, qui est à côté,
Ouais.
il y a eu à un moment donné un des chefs de la junte
Oui,
militaire qui s'appelait Panzer.
Stroessner. Oui,
Il y
puis
a eu
là,
Stroessner et il y a eu Panzer
Stroessner,
aussi, ouais.
tout à fait.
Donc effectivement, les patronymes. Et lui, il ne descendait pas des nazis, il descendait d'une famille installée là depuis le 19e. Donc
Et
effectivement, vous
ouais.
montrez bien ce mélange
Ouais.
qu'il y a et ces filières
Ouais,
d'évasion.
et oui, les filières, puis après, ce qui est intéressant, l'histoire de ces sous-marins, donc qui est avérée, hein. Les sous-marins qui partent au moment de la reddition, l'amiral Dönitz dit à tous les sous-marins de rentrer au port. Et bon, il y a des sous-mariniers qui expliquent qu'ils n'ont pas trop voulu aller au Portugal. Et puis ils partent. Ils voulaient aussi atterrir l'Argentine qui a été neutre, mais pas jusqu'à la fin de la guerre, avant la fin. L'Argentine n'est plus neutre, mais bon, ils fuient quand même là-bas. Il y en a qui tirent des missiles sur New York. Enfin bon. Et il y a ce fameux sous-marin qui lance. Tout ce carnet de bord à la mer avant d'arriver, tous les papiers de tout le monde, ils arrivent, ils sont moins que prévu, il y en a qui ont été débarqués, on ne sait pas trop. Et là, ça alimente des fantasmes. Et dans la presse locale argentine, qu'on peut, en cherchant vraiment, je fais effectivement beaucoup de recherches, des personnes auraient aperçu un sous-marin. Il y a le témoignage d'un chef de la police qui inspecte ce sous-marin et qui ensuite trouve, en faisant des exercices, une grotte. Oui, il repère du matériel qui serait descendu d'un sous-marin. Quelqu'un croit voir Hitler et va Braun. Enfin bon, ça alimente un peu tous les fantasmes. Donc il n'en faut pas plus pour un auteur de polar pour creuser là-dessus et puis en faire un petit peu un parcours un peu décalé par rapport à la réalité. Mais
Bah,
pourquoi
c'est-à-dire,
pas?
ce sont des sujets en or. Je veux dire, à la fois le fantasme, ben, il attire le lecteur,
Oui, bah
mais le
oui.
fantasme permet aussi de jongler à partir du fantasme comme point de focalisation pour parler de choses vraies et de l'histoire, quoi, hein.
Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est ce qui est intéressant, là, les premiers retours que j'ai, hein, bon, que ce soit d'amis ou d'autres lecteurs, Et puis c'est ce qui m'intéresse. Moi, enfin, moi, quand je lis un polar, j'aime bien prendre quelque chose, avoir appris quelque chose à la fin. C'est dit, ah ben ça m'intéressait. Et ce que j'aime particulièrement, c'est quand le lecteur ou la lectrice me dit, ah, ben, du coup, ça m'a donné envie de chercher un peu. Puis je suis allé voir, j'ai poussé un petit peu plus loin. Je mets toujours en plus une biographie détaillée, une filmographie, etc. à la fin. Et ça, c'est intéressant quand la personne va chercher un peu plus. Ah ben, je connaissais pas, je vais voir. Je l'avais fait également. Bon, ça m'est arrivé sur les brigades internationales où les gens connaissent. Certains ne connaissent pas et disent « Ah bon, je vais chercher ». Voilà, si ça peut aussi permettre des découvertes, voilà, ça me satisfait.
Très bien. Philippe avait une question à vous
poser. J'ai une question, oui. Patrick Hamain, hein, on rappelle, oui. Hein, pour celles et ceux qui prendraient l'émission en route, donc votre roman, votre polar, « Les Lampourdes de Magellan », donc aux éditions Caïman. Ouais. Est-ce que c'est votre marque de fabrique quand vous écrivez un roman, c'est-à-dire là, vous mettez en lumière, alors moi, des événements dont je n'étais pas du tout au courant, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question des îles anglo-normandes durant la Seconde Guerre mondiale, de savoir quels étaient leurs devenirs, alors qu'elles sont toutes proches des côtes françaises, hein, beaucoup plus proches des côtes françaises au demeurant que des côtes anglaises. Ouais. Donc je ne m'étais jamais posé cette question. Est-ce que c'est votre marque de fabrique de dire à un moment donné, je vais aussi essayer d'explorer des événements que personne n'a jamais mis en lumière, et à partir de ces événements, je vais construire effectivement un polar pour que ça ne soit pas qu'un polar, mais aussi pour permettre aux gens d'explorer le réel.
Ben c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, bon, on va dire que il n'aime pas le terme, mais je ne l'aime pas trop, mais mon maître en la matière, c'est moi, j'ai découvert le polar français, Didier Denynx. Que ce soit Meurtre pour mémoire ou La mort n'oublie personne, où lui vraiment, bon, qui est un journaliste, chercheur, gratteur, lui a vraiment mis des événements en lumière qui étaient complètement inconnus. Hein. Donc j'ai pas cette prétention-là, bon, j'en ai pas forcément les capacités. Par contre, des événements connus mais dont on parle peu, c'est effectivement ça. Comme j'avais fait dans Je servirai la liberté en silence sur la brigade nord-africaine qui avait sévi notamment en Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, c'est ça, quoi. C'est mettre en lumière des événements ou des faits, des peu connus, le mettre en perspective avec une histoire en essayant de. Parce que autrement, je fais un livre historique, mais pareil, j'en ai pas les capacités puis pas l'envie. Et donc, le polar permet vraiment tout. La fiction permet beaucoup de choses, mais le polar permet vraiment, c'est un grand espace de liberté et où on peut effectivement mettre tous les événements qu'on veut et. Attiser la curiosité et permettre aux lectrices et lecteurs d'aller chercher un peu plus loin. C'est exactement ça. J'ai tout compris.
Alors, Patrick, moi j'ai une question à vous poser. C'est quoi les Lampourdes de Magellan?
Ah, alors, est-ce que je dois le révéler? Voilà, on peut le dire.
Ah, je ne sais pas. Est-ce que ça divulgâche beaucoup de choses?
Non, ça divulgâche rien du tout, parce qu'il suffit de regarder sur Internet. Ah, c'est pareil, c'est en faisant les recherches sur l'Argentine, c'est une plante. C'est une plante vivace qu'on trouve beaucoup en Amérique latine et qu'on trouve en Argentine. Voilà. Et j'ai trouvé ce mot-là. J'en ai parlé à Jean-Louis Nogaro, que vous connaissez.
Oui, que nous avons reçu il y a quelques semaines pour son polar.
Voilà, et qui est le directeur également des
émissions de Caïman. Ouais.
Voilà.
Qui a cette double casquette.
Et donc j'avais deux titres, parce que bon, sans divulguer non plus. Ça aurait pu être Opération Magellan. Bon, ouais. Et puis je dis à Jean-Louis, L'Emporte de Magellan. Il m'a dit, oh, j'adore les titres comme ça, qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
Il est très énigmatique, faut dire. Hein, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, est-ce qu'il y a une faute de frappe? Et c'est Lambourde, mais pourquoi des Lambourdes?
Voilà, exactement. Bon,
alors, j'ai eu la curiosité d'aller regarder dans une encyclopédie, puis j'ai vu ce que c'était, donc je n'en dirai pas plus. Hein, donc, c'est une plante vivace et qui a sa raison d'être dans le titre.
Voilà, Et donc, avec pareil avec la couverture, avec la tour Vauban de la Hogue, et puis on voit les deux tampons, le cachet personnel d'Himmler qui est sur la droite, et ensuite le tampon, l'emblème du Mossad, ça y s'écrit israélien.
Alors oui, effectivement, vous avez aussi une petite digression autour de Tel Aviv et du service de renseignement, mais nous n'en dirons pas plus. Moi, je conseille aux auditeurs et aux auditrices d'aller se plonger dans votre roman. Donc, Les Lampourdes de Magellan, par Patrick Hamain aux éditions du Caïman.
Merci Patrick Hamain. Les Lampourdes de Magellan chez Caïman, aux éditions Caïman. Vraiment, on le recommande. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de nous raconter, c'est vraiment passionnant.
Merci beaucoup, Patrick. Et puis, à votre prochain roman.
Ok, à la prochaine.
Merci, à la prochaine. Patrick, à bientôt. Merci pour nous la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.